Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'une ardeur si noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imitait son silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle. Il est 13h, donc navré pour la playlist qui avait l'air bien alléchante, mais du coup, c'est à nous. Aujourd'hui, dans l'émission, on va vous proposer la lecture du texte de Samael Steiner, Poème bleu, Nicole sous la surface de l'eau. Et c'est un texte qui a été lauréat du prix Jean-Jacques Lérand des Journées de Lyon des auteurs de théâtre en 2017. Donc ça, c'est vrai que ce sont des moments qui sont bien sympas, qui seront chaque année sur des rencontres, voilà, donc d'auteurs de théâtre à Lyon. Je ne me souviens plus forcément des périodes, mais en tout cas, vous aurez souvent l'occasion d'avoir ces infos ici, mais pas aujourd'hui. Alors, nous avons en studio avec nous pour cette lecture Jessie Edostian.
Bonjour.
Amandine Vincent.
Bonjour.
Et Pauline Thirault, ma pomme à la technique. Et donc, sans plus attendre, nous allons plonger dans ce poème bleu pendant une heure.
Il y a 5 générations.
Il y a les hommes, les uns à la suite des autres.
Il y a les femmes, les unes à la suite des autres. Il y a l'entreprise.
Nicole.
Qui fabrique des sangles. Il y a la vie insulaire.
L'air du large, chargé de solitude.
L'horizon circulaire, bleu ou noir. La famille.
La grande table.
Les repas. Il y a les hommes qui travaillent.
Qui dessinent.
Qui inventent et d'autres fabriquent. Il y a le plus vieux.
Le tableau au-dessus de la porte.
Le vent, le froid.
L'habitude d'avoir froid et de vivre les yeux plissés.
L'odeur du sel sur chaque objet qu'on touche. Cette eau autour.
Cette eau partout que personne ne peut boire.
Il y a les femmes qui veillent sur l'eau.
À quelques kilomètres.
La mer entre dans la terre.
Comme une langue.
Il y a une source à 10 mètres de profondeur. De l'eau douce.
Alors elle plonge.
Entretenir le précieux tuyau qui sort à la surface. Chaque jour chercher de l'eau.
Il y a les jours d'été.
Il y a les jours plus froids. La peur d'y rester.
La peur de dépasser la pierre ronde qui marque la limite.
La fierté de la tâche accomplie et du danger bravé. Il y a Macha, 11 ans.
Qui regarde émerveillée sa mère plonger.
Souple, les longs cheveux se perdre.
Devenir cercle sombre.
À l'eau, point.
Puis rien.
Et l'immensité à nouveau s'ouvrir et s'imposer.
Le rire de Macha quand émerge sa mère.
Et aujourd'hui, sur ce coin de sable, un peu de soleil. Il y a le lourd tuyau qui alimente une cuve.
Et d'autres tuyaux plus petits qui partent vers l'usine.
La grande table, les repas.
Les précieuses bouteilles d'eau sur la table.
Disposer tous les mètres. Il y a Macha.
11 ans.
Curieuse. Les yeux et les mains calmes.
Qui commence à comprendre.
Il y a un camion qui entre dans la cour. Un camion rouge, venu du continent.
Depuis le bout de la route, elle le guettait.
La route est longue et droite. Bleue. À 7h.
Elle l'a vu venir.
Depuis la sortie de la forêt. La tournée commence par ici, alors il est toujours à l'heure.
L'hiver est là.
Les oiseaux se laissent flotter. Plus la peine de voler. L'air est dense, disait l'arrière-grand-mère.
L'hiver est là, alors elles ne peuvent plus plonger.
L'eau arrive du continent. Directement.
Par la route.
Il y a la beauté des nuits. L'immensité des nuits.
Les lueurs en mer et sur les côtes.
L'espoir de les lier. De lire. Des ensembles.
De voir des archipels.
Il y a les crânes libérés, simplement devenus caisses de résonance.
Qui réfléchissent avec retard ce qui se passe autour.
Il y a entre ces crânes et le ciel, de voûte à voûte.
De périmètre à périmètre.
Un rapport qui se noue. Il y a des êtres qui de partout projettent sur le ciel.
Et parfois on entend un cri.
Un râle. Un corps qui se déplace.
Il y a Macha qui se réveille.
Se dresse. Regarde la forêt.
Regarde les murs de sa chambre.
Traverse le couloir. La pièce où est la grande table.
Marche jusqu'à la chambre de ses parents.
Regarde son père endormi et dit « La nuit est belle, tout est apaisé. Qu'il est beau cet homme qui dort. Et demain c'est lui qui se lèvera reposé, qui continuera à me dire ce que je dois faire, à m'apprendre que je suis une fille, que je dois veiller sur l'eau, qu'il ne faut pas aller au-delà de la pierre qui marque la limite, que je peux être fière. »
qu'il faut que je sois fier, que notre famille, depuis des générations, a bâti un empire, qu'il faut le respecter, qu'il y a une place pour chaque chose et une place pour chaque être.
Masha continue de regarder son père.
Qu'il est beau cet homme endormi, mais qu'il serait plus beau encore si je savais qu'il garde cette douceur, qu'il garde cette tendresse une fois debout.
Il y a un sifflement qui traverse les pièces vides.
Fait prendre au rêve en cours une autre direction.
Masha retourne dans sa chambre.
Regarde la forêt.
S'allonge.
Attend que le jour revienne.
L'entreprise Nicole.
C'est d'abord Anatolie en 1883, sans trop savoir où cela mène, loue une maison isolée avec garage, commence seule. 3 années plus tard, l'affaire tourne. Il achète la maison et embauche 2 personnes. En 1921, Alexandre épouse la fille d'Anatolie. 1924, il reprend l'entreprise, fait construire 2 hangars pour stockage, commence à exporter au-delà de l'île. Se lie d'amitié avec un homme, Roy, qui connaît l'île en détail. Chaque arbre, chaque mètre carré lui donne de la sangle en échange de services. Un jour, Roy lui indique une source d'eau douce sous-marine à 10 mètres sous la surface de la mer. En 1943, Dimitri épouse la fille aînée d'Alexandre. En 1944, il reprend l'entreprise familiale, modernise la chaîne de production, fait construire une cantine pour les 70 employés, poursuit l'export au-delà de l'île. Les femmes commencent à plonger pour remonter l'eau douce durant les mois d'été. En 1976, Matt Veil épouse la fille de Dimitri et reprend l'entreprise familiale qui connaît quelques difficultés financières. Il y a Masha, 7 ans, qui rêve d'autres mondes, qui parle des autres femmes et des autres hommes que l'on pourrait rencontrer, des plantes plusieurs fois grandes comme elle, des animaux, du sable, des pierres avec des formes qui diraient quelque chose, des étoiles plus grosses, plus chaudes, et des méduses, qui ne serait ni femme, ni homme, ni animal, ni plante, ni étoile, mais à la croisée d'espèces rares, serrures lumineuses. Et certains jours, en bordure, on peut les voir. Le sable est froid, on a dormi là, le sable a épousé complètement les corps, et avant l'aube, une lumière vient éclairer la plante de nos pieds, le revers de nos mains, le dessous des visages, une lumière montante qui n'aveugle pas, qui n'abîme pas à la fraîcheur de l'obscurité. Elles sont là, se suivent, font exister des formes, des lignes souples, des cercles. On voudrait y aller, passer la surface extraordinaire, calme de la mer, entrer dans cette autre densité, sentir le corps différemment enveloppé, différemment compressé, différemment oxygéné. Et le père qui dit...
Macha, tu sais, il y a une limite. On t'a souvent parlé de la source, des poissons, mais il y a une pierre qui marque la limite.
Et Macha qui ne répond pas, qui continue de rêver en faisant avec ses mains de petits gestes, comme de petits cris. Puis elle dit...
Et s'il n'y avait pas de limite? Et si on pouvait être de deux endroits, d'ici et de là-bas?
Le père se lève, ne dit rien, revient et sourit.
Si on pouvait.
Puis il enfile son manteau et part travailler. Macha reste droite, debout devant la porte, le regard ici et là-bas, concentré sur ce qui vient, sur ce qui est, sur cette phrase de son père « si on pouvait ». Sa mère et sa grand-mère débarrassent la table, empilent les bols, ramassent les cuillères, et pour la première fois, elle sait ce que pourrait être le chant des méduses. Elles ont des petites dents en métal, des tubes, des poches. Elles ne chantent pas, elles travaillent, elles digèrent. Et Macha se met à rire. Comme si le rire était d'abord un étonnement, puis une alternative à la fuite.
La robe bleue. Un jour, Macha enfile une robe bleue. Dehors, il fait encore nuit. Elle descend l'escalier, entre dans la grande pièce. La famille est déjà à table, en silence. Le bruit des cuillères dans les bols, c'est tout. Macha s'assied.
Je ne savais pas que tu avais une robe bleue.
Personne ne porte du bleu. On répond que c'est une couleur triste, sombre, loin de nous. Qu'elle est belle là où elle est, le ciel, l'eau, ça suffit. Mais Macha a mis cette robe bleue. Elle ne s'est pas posé la question. Elle aime la forme, la légèreté du tissu qui vient toucher ses jambes, l'impression de décoller légèrement lorsqu'elle descend l'escalier, comme quitter une première épaisseur du monde. Elle prend une tartine, sort. Directement dehors. Alors qu'elle court, elle se met à penser, à regarder autour et à penser alternativement à tous les bleus possibles. Bleu barbeau, azur, bleu ardoise, bleu bondi, bleu ciel. Elle regarde les arbres qui défilent et disparaissent, puis d'autres arbres, et la route, toujours. Bleu céruléen, bleu charrette, bleu colbette, bleu de minuit, mer du sud, bleu électrique, bleu pétrole, bleu horizon, bleu peau, bleu rêve. Et cette course dure une heure. À courir, penser, voir, imaginer. Une heure et des années. Plus tard, bien plus tard, elle s'arrête, pose le sac, garde sa veste, regarde. Il est midi. Elle a 13 ans. Elle dit
« Pour moi, le bleu, c'est la peur. Profonde. Quand le sol te quitte, n'est plus là pour rappeler que le monde est fini. La peur de la mort. Des morts qui pourraient revenir. Des pans de béton armés. Bleu. Autour de moi, il y a des gens qui tombent. Le secret est un arbre bleu fin et ployé. Peur d'y aller. Peut-être. D'ouvrir encore une fois les fenêtres de ma chambre. D'être là, de continuer d'exister. » Peur que quelque chose arrive, que le monde s'ouvre, qu'une vérité trop grande éclate, apparaisse sur les parkings quand les voitures s'en vont. Peur d'aller au-delà, de dépasser le bord du monde, le bout de la rue. Peur de la chute, peur de cette eau froide qu'il faut percer avec le corps, qu'il faut pousser pour ne pas crever. Peur de l'immensité cachée derrière la pierre qui marque la limite. Peur de se perdre. Peur que le corps s'en aille et laisse les yeux seuls errer sur la surface de l'eau. Peur d'avoir été jeté là. Peur d'être né comme ça. Peur de mes seins qui se regardent naître. Peur de ce trou, de cette obscurité, de mes doigts qui y plongent, du goût, de l'odeur, de toute l'excitation et du regard des hommes. Mon corps est déjà au centre du cercle.
Un autre jour, elle a 14 ans. Elle dit
« Pour moi, le bleu, c'est l'immensité. » Les profondeurs, les cavernes, les lumières secrètes du fond. J'explore, je ne m'arrête pas. La joie de rompre ce qui me lie au sol, à la maison, aux autres, à leurs yeux, à leurs mains. La joie de disparaître. Et plus tard, de devenir invisible au milieu de ma chambre. Discours du père au public, fragment 1.
Chers amis, nous sommes une entreprise familiale, 4 générations. Alors, je ne peux malheureusement pas dire de père en fils, mais nous nous sommes passés, les uns aux autres, un savoir-faire que chacun a pu, de sa place, à sa façon, rendre meilleur, plus précis, plus inimitable. Vous connaissez l'histoire de notre famille, les moments difficiles, et pourtant, le travail, toujours le travail. Dans bien des endroits, le monde autour, l'agitation, l'actualité, viennent freiner ce qui peut se passer dans un atelier. Nous avions fait un choix que nous ne regrettons pas. Une île, pas trop éloignée du continent, mais libre de lui, seule, avec autour la mer. Plusieurs mers, comme des miroirs, sans autre activité que les vagues. Depuis toutes ces années, nous fabriquons des sangles. Les sangles Nicole sont exportées dans plus de 30 pays et servent ici, sur l'île et sur le continent, chaque jour. La sangle ne connaît pas la crise. On a toujours besoin d'accrocher quelque chose. Nous avons développé plusieurs gammes, à des prix et qualités différents, pour permettre à chacun de pouvoir trouver chaussures à son pied. Alors, je ne vais pas revenir sur le tressage particulier qui a fondé notre succès, ni sur la qualité des matériaux employés. Je voulais vous parler de la manière dont nous travaillons, de la dimension familiale.
La combinaison de plongée.
Macha a 15 ans, mais est trop grande. Presque plus grande que son père.
Trop grande pour ton âge, regarde tes jambes.
Il n'y a pas de combinaison de plongée à sa taille.
C'est une question de rapport, la longueur de tes jambes par rapport à ton buste.
La grand-mère lui offre quand même sa première combinaison, la sienne, reçue et portée en 1938. Le jaune a déteint, mais on peut lire encore au dos « Dieu nous garde ». La joie de pouvoir plonger à son tour. Mais rien ne colle, les jambes trop longues, les bras trop courts. Et la mère qui demande...
On avait pourtant toutes les jambes pas trop longues, le buste à sa place. Ça vient d'où, ça?
Macha, 15 ans, rouge de colère, de tristesse, de révolte contre ce corps, ses jambes trop longues, ses bras trop courts, ce corps trop... tout simplement trop. Rouge de honte. Elle voudrait maintenant fuir, se désolidariser de lui, le trahir, puis courir très vite. Jamais vu? Non? C'est pas moi. Je ne te connais pas. Courir très vite. Mais la peur, soudain, de ne pouvoir passer les portes, de ne pouvoir disparaître sans bruit. Alors, elle tourne la tête, la fenêtre. Au loin, la forêt. La route qui mène à la forêt. La vie invisiblement active dehors. Les oiseaux portés par le monde. Le poids de ce monde réparti entre les arbres, les herbes, entre tous. Et Macha se souvient des herbes 3 fois plus hautes qu'elle. Voudrait parler, dire que peu importe. Mais rien finalement. Rien ne sort. Elle se tait. Regarde la forêt. Il y a dans la maison le bruit de la pendule. 1 quart d'heure de plus. Tandis que dehors, un oiseau survole la route. Elle sait que le temps passe, quoi qu'on dise. Et la colère lentement se déplace. Puis se pose sur ce monde. Pour l'instant, elle ne sait pas le dire, pas exactement comment le vivre, ni quoi faire de cette vie, ni quoi faire de cette colère. Alors elle crie, debout, devant la fenêtre, face à la forêt, dos aux autres. Elle crie et ne s'arrête plus. On ferme les portes de la pièce, les volets. Elle crie toujours. Au soir, elle s'effondre, épuisée, s'allonge, dort d'une traite. Au matin, elle se lève, rouvre les volets. La forêt n'a pas bougé. Rouvre la porte, viens manger. La grande table, tout le monde est là. On ne lui demande rien, on l'embrasse. Les discussions reprennent, elle regarde la pendule à sa place et droite, comme la forêt. Elle regarde ses mains. Tout le corps porte maintenant le poids de la colère, réparti. Les discussions se poursuivent, sans gravité, sans impact. Elle se remet à parler et sent que sa bouche est devenue plus précise. À cette heure-ci, elle voudrait embrasser quelqu'un. Une femme ou un homme, peu importe. Mais plonger sa bouche dans une autre bouche, sentir que quelque chose advient, entendre le bruit des corps brisés, la surface extraordinairement calme. Mais il n'y a personne.
Les gardiennes de l'eau.
La chambre de la grand-mère, plus haut, à gauche de l'escalier, au bout du couloir, C'est une chambre seule, petite. L'après-midi est avancé. Beaucoup de lumière, le ciel est blanc. Masha monte l'escalier. Le silence est entier. En bas, ils dorment tous. Elle pousse la porte de la chambre. Elle n'y était jamais entrée. Les volets sont fermés. Debout, dans la porte, elle attend. Il y a comme un épais rideau de nuit sur le lit. La chaise, le petit bureau à côté de la fenêtre, il y a une photo. Ses yeux se font à l'obscurité. À l'intérieur du cadre blanc, il y a un grand escalator très long et une femme, une seule, assise sur l'une des marches. Elle fait quelques pas, pousse la porte, avance jusqu'à la photo. Saint-Pétersbourg, c'est écrit dessus. Il y a une date et un nom. Rien au dos, la blancheur aveugle du papier. Sur le bureau, deux magnétophones de deux époques différentes. Des cahiers, des cassettes, plusieurs photos juste au-dessus. Masha passe son doigt sur chaque visage, descend les chevelures, observe. Au dos, la grand-mère a écrit une phrase. Saint-Pétersbourg, il faisait moins 20.
Discours du père au public, fragment 2.
Nous travaillons toute la semaine. Les bureaux sont vitrés. Nous donnons sur les ateliers. Nous pouvons mutuellement nous voir travailler. Cela nous aide les uns et les autres à tenir, à avancer, à ne pas oublier pourquoi on travaille. Il y avait un grand mur séparateur, des briques grises. Côté bureau, on avait enduit et posé un papier. Mais côté atelier, c'était brut. On l'a fait percer. C'est important de se voir. Dans une entreprise moderne, on ne peut plus penser qu'il y a d'un côté ceux qui pensent et de l'autre ceux qui fabriquent. On est ensemble, chacun avec ses mains et sa tête. Et on avance. On a fait poser de grandes fenêtres et nous n'avons posé aucun rideau ni aucun store. L'entreprise est un monde d'hommes. Alors, je ne dis pas cela par misogynie, je le constate. Depuis que l'entreprise existe, ce sont des hommes qui l'ont fait vivre, qui ont produit des kilomètres de sangles. Il faut des mains carrées, une force égale dans tous les doigts, un dos qui ne vieillit pas trop vite et qui s'habitue vite au travail rapide, courbé, efficace. Il faut de l'endurance. De leur côté, les femmes sont les gardiennes de l'eau. Au départ, elles plongeaient régulièrement durant les beaux jours pour remonter l'eau douce. Aujourd'hui, il y a un système pour capter et filtrer cette eau. Il y a une petite histoire qu'on s'est transmise, j'allais dire dans la famille, au sein de l'entreprise, dans la famille aussi, évidemment. Et d'ailleurs, l'entreprise a quelque chose d'une famille. Et cette petite histoire, c'est celle de Roy, un braconnier qu'aurait rencontré Alexandre, l'un des pères fondateurs. Faut bien appeler les choses telles qu'elles le sont. Nous ne savons rien sur la véracité de cette histoire, mais elle est belle. Sur la grande fresque qui raconte l'histoire de l'île, sur le mur extérieur, face à la mer, Roy a une petite place, en bas, à gauche. Je vous raconte rapidement l'histoire. C'est un détour, mais elle est belle. C'est l'aube. Il a chassé toute la nuit, sans rien prendre de consistant. Il arrive devant la mer. Au loin, il aperçoit un petit troupeau de je ne sais quoi, quelques bêtes qui se détachent du reste. Elles se sont avancées dans la mer, ont de l'eau jusqu'en haut des pattes, et elles boivent. Il s'approche. Dès qu'elles le sentent, les bêtes s'immobilisent, puis s'élancent et disparaissent. Absolument normal. Lui, il s'avance. Il ne voit pas encore très bien, et puis l'eau est trouble. Les bêtes viennent de partir, l'agitation, les sabots dans le sable. Mais apparemment, il finit par trouver l'endroit où elles buvaient. Il est braconnier, donc peut-être qu'à force, le corps, les yeux développent une certaine acuité. Bref, il trouve. Il se met à genoux dans l'eau, à quelques mètres du bord. Il est tôt. Il est tout habillé, mais apparemment ce n'est pas un problème. L'eau est froide, sans doute, mais il se met à genoux, se penche et commence à boire. C'est de l'eau douce. C'est là toute la beauté de l'histoire. C'est de l'eau douce. Une source d'eau douce, sous la mer. Aujourd'hui, il y a une pompe puissante, une cloche métallique capte l'eau presque avant qu'elle ne jaillisse. L'eau douce, plus légère, monte depuis la cloche jusque dans une citerne et s'est acheminée ensuite jusqu'ici, grâce à une puissante pompe et à un réseau de conduite métallique. C'est un allège très spécial, mais je ne pense pas que ces détails vous intéressent. Et une fois arrivée ici, l'eau est filtrée, puis traitée. Il y a donc toute une partie du travail qui se fait maintenant à terre, depuis la terre. Mais ce sont les femmes de la maison qui continuent à plonger. une fois par semaine, en été, pour vérifier la pompe, le principe d'étanchéité, le bon fonctionnement. Je dis tout cela, pardon du détour, je précise, parce que c'est une tâche importante.
Le destin. Une phrase de son père, un jour parmi d'autres, ils sont sortis sur la terrasse, il fait beau, chaud, le petit déjeuner se prolonge. Une phrase échappée, prise dans le flot des autres, prise dans l'ensemble, prend corps, forme, dévoile, projette, destine, devient. Pour Macha, qui avait fini de manger, qui regardait ailleurs, la rattrape, la fait revenir, elle est là, assise. Et c'est son père qui parle. Oh, ça pourrait être sa mère, la phrase n'a pas de sexe. Elle était là, depuis longtemps, au milieu du linge qui sèche, qu'on repasse, qu'on remet, au milieu de l'argent qui circule, qu'on s'échange, dans cette eau qu'il faut chercher et que l'on boit entre les murs, entre cette portion de ciel et eux. Elle était là, et c'est lui qui l'a dite. Mais ça aurait pu être sa mère. La phrase est lâchée, et Macha comprend tout. Tout ce qu'elle est et pourquoi. Ce qu'elle doit faire, ce qu'on attend qu'elle fasse. Les fenêtres murées, par où des yeux la guettent. Les regards cachés au fond des textes et des images. Les danses tuent dans les corps. Les mots restés seuls, sans autres, sans fraternité possible, qui, faute d'être dit, restent là, à la base des cheveux, comme des antennes brisées. L'habitude de regarder le ciel dans le reflet des flaques, de ne plus lever la tête, jamais. Tout est là.
Et si je refuse ?
Elle a dit ça très vite et très fort. Tout le monde s'arrête. Elle est étonnée. Ils ne comprennent pas. Ils se mettent à rire. Le vent est là. Ils rient ensemble. Pas Macha. On dirait des fleurs au bord de la route, des fleurs qui bougent au même rythme, que la même impulsion traverse au même moment. Le vent est là. Macha se lève, quitte la table, la terrasse, laisse la maison. Plus loin, c'est un morceau de champ, pris entre la route et la forêt. Elle s'arrête, se retourne. Regarde la maison, la terrasse, qui n'est plus qu'une petite chose vue d'ici.
« J'ai une vie à vivre »,
elle murmure. Ses larmes se mettent à couler. Elle s'assoit. L'herbe est encore humide, son pantalon se mouille. Elle ne lutte pas, reste assise. L'impression d'appartenir aussi à ce champ. La lumière est soudain plus fraîche. Un nuage est passé. Une pensée concrète monte en elle.
Il y a tant de gens rencontrés encore. Tant de gens dont je ne connais pas le nom, ni le visage, ni l'odeur.
Il y a un bruissement d'herbe en herbe qui s'enfle. Gagne les arbres, comme si quelque chose d'incroyable allait arriver. Et puis rien. Le souffle passe, poursuit plus loin. Macha s'allonge, ferme les yeux.
Discours du père au public, fragment 3.
Depuis toutes ces années, l'entreprise s'est montée, a été construite, pour être plus précis. Il y a l'idée de départ. Quelques premières formalités, puis ce sont des murs qu'il faut lever, à la force du bras. Il n'y avait pas toute la technologie, tout le confort moderne au départ. Des murs se dressent, puis d'autres. On agrandit, on équipe. Chaque poste de travail devient de plus en plus adapté à ce pour quoi on le destine. Aujourd'hui, elle est là, prête à affronter ce qui arrive. On pourrait aménager encore, c'est certain, mais elle tient debout, elle est entière, elle permet de travailler toute une journée sans trop se fatiguer, d'avoir encore le temps et le courage, le soir, en sortant, d'aller faire quelques pas au bord de l'eau. Tout est là, nous pouvons voir venir. Nous avons bâti une route, large, solide, ensoleillée. Nous avons mis le temps, 4 générations, mais maintenant, nous pouvons simplement l'emprunter, aller et venir. Pour celles et ceux qui arrivent ou vont arriver, je veux parler des prochaines générations, quelle joie de ne plus avoir à construire ou reconstruire l'entreprise. Tout est là. On se passe les clés d'une génération à l'autre. C'est tout. Il y aura des réparations, évidemment, quelques travaux, mais si peu. C'est une certaine fierté que de pouvoir transmettre, léguer à ceux qui arrivent, quelque chose de stable, d'ancré, de résolument moderne. Ce monde est devenu, ou peut-être l'a-t-il toujours été, violent, rapide, trop rapide, prompt à renverser ceux qui ne savent pas sauter assez haut. Vivre est devenu un apprentissage, et parfois, dans certaines grandes villes, je pense que c'est même devenu un métier. Tout ce que j'ai fait ici, sur cette île, dans cette entreprise, Je l'ai fait pour sécuriser un peu, au moins, la vie des miens, leur quotidien et leur avenir. La mère a toujours été pour moi un modèle, par son calme, son activité simple mais incessante, toujours des vagues, mais chaque vague est nouvelle. Les jours où je peux me dire que ce que j'ai bâti ou contribué à bâtir va tenir encore longtemps et permettre à d'autres de vivre et de travailler, ces jours-là, je suis un homme heureux. Je vous remercie pour votre attention.
Apnée. C'est le petit matin. Elles sont là, la mère et la fille. Macha dans l'eau, c'est froid. Il ne faut pas rester trop longtemps immobile. Elle nage. Macha regarde sa mère, essaye de régler ses mouvements sur les siens. Elles n'ont qu'un petit maillot de bain en bas. Il ne fait pas encore totalement jour. Macha regarde les seins de sa mère tendus par le froid. Il n'y a rien de plus beau, elle pense.
Ça avance, ça s'élance vers l'extérieur.
Elle pense à d'autres bras plus petits qui n'auraient pas de mains ni de doigts.
Si j'avais une moto, je roulerais seins nus pour palper le vent, sentir ce qui vit, traverser la forêt, toucher les feuilles et la pluie.
Sa mère a replongé. Elle tient longtemps sous l'eau sans reprendre sa respiration. Macha s'entraîne avec elle, à côté d'elle. Une fois sous l'eau, elle ouvre les yeux. Elle a reçu de petites lunettes spéciales. Elle voit clair, fixe le corps de sa mère. Plus clair que le fond et la masse autour, essaie de tenir le plus longtemps possible, puis remonte d'un mouvement de jambe, remonte à la surface, reprend de l'air, attend que sa mère remonte. Elles rient ensemble et replongent. Macha garde ce rire à l'intérieur. Cela lui donne un rythme pour rester, pour compter, pour imaginer, un rythme rassurant. Tout autour, il n'y a que des masses en mouvement, des couches d'eau additionnées, et sur la surface, la lumière. Le reflet du jour qui commence. Elle plonge une fois encore.
Thank you. Une image.
Il y a un homme, grand, les cheveux et les yeux noirs, debout. Il marche depuis longtemps. Ses chaussures sont usées, ses bas de pantalon blanchis par la poussière de la route. Il s'est arrêté. Il regarde l'objectif. Quand on a la photo entre les mains, on dirait qu'il nous regarde. Il ne sourit pas. Peut-être ne savait-il pas qu'on allait le photographier. Il n'est pas triste, pas en colère.
Il porte quelque chose,
pense Macha. Elle a trouvé l'image dans un magazine, ramené de Saint-Pétersbourg, dernier voyage d'affaires de son père, il y a 2 ans.
S-A-I-N-T-P-E-T-E-R-S-B-O-U-R-G.
Chaque lettre compte. Elle voudrait y aller, y être, traverser la ville, être traversée par la ville, croiser d'autres femmes, d'autres hommes, se regarder. Macha tourne la page. Il y a des colonnes de texte, 3 piliers. Elle revient à l'image.
Peut-être faut-il maintenant se baisser, ramasser ce qu'il y a, continuer vers la mer et arriver non loin, là où commence l'empire du sel. Poser la question.
Elle a dit ça à voix basse. L'élève toute proche du corps de l'homme. Elle relève la tête. La fenêtre est ouverte. L'étagère. Elle tombe sur une histoire des clés à travers des siècles. Un hoquet de joie la soulève. Elle découvre la photo, grande comme sa main, range le magazine, vient la coller sur le mur, en face de son lit.
Je ne sais rien encore.
À nouveau, cette joie la soulève.
Partout, des points sont là. Ils m'attendent. Pour les avions, ce sont des points. Mais pour moi, ce sera des îles, des villes, des femmes, des hommes, des forêts, des aéroports, des jetées, des puits, des routes. Première plongée.
Jamais encore, elle n'avait plongé seule. Personne ne l'accompagne. Elle a marché depuis la maison, la combinaison sous ses vêtements, comme une deuxième peau. Elle pose son sac. La petite plage est déserte, se déshabille, se prépare. Avec sa mère, elle a pris l'habitude de chaque détail. Elle sait précisément comment et où elle doit aller. Sa mère ne s'est pas levée ce matin avec elle. La petite plage est déserte. Elle n'a personne sur qui fixer les yeux. Personne à observer pour comprendre. Alors elle regarde le reste, cette portion de monde autour, qui partage avec elle ce début de jour. Elle sent un cri à l'intérieur qui voudrait dire...
Émancité.
Enfance.
Monde, où es-tu ?
Le silence m'empêche de vivre heureuse.
Quelque chose a commencé.
Je quitte la forêt.
Je voudrais traverser.
Avant qu'il sorte... Elle plonge. La surface ne se referme pas tout à fait. Elle a accroché la longe au harnais et à l'autre bout, à l'anneau scellé dans le bloc sur la plage, elle a plongé, trop vite ou trop tôt, sans attendre celle qui reste à la surface, assise sur le sable qui veille au temps, au bon déroulement. Elles arrivent, voient la corde tendue, comprennent, s'assoient avec colère, regardant la mer, tirent la corde, Macha comprend, tire la corde à son tour. 2 coups. La journée commence. Elle sourit. Regarde la mer. Sous la surface de l'eau.
J'imagine un instant Nicole sous la surface de l'eau. La grande enseigne lumineuse éteinte sans voix possible. La bâtisse sombre enfouie sous l'épaisseur de l'eau, sous les couches d'eau et déserte et les kilomètres de sangles derrière les portes closes. Puis je rouvre les yeux. Partout le fond, l'immensité des fonds marins, devant, autour. Partout autour de moi. Je revois la forêt, la fenêtre de ma chambre et la forêt derrière, loin, là où il ne fallait pas aller. Les arbres debout, foncés, la limite précise entre le champ et le début de la forêt, et cette sensation qu'on pouvait s'y glisser pour disparaître, s'appartenir, glisser hors du regard des autres. Je revois ce jour d'octobre. Je suis à la fenêtre,
La nuit commence à arriver par paquets. Sur la route qui part vers le continent, il y a un 4x4. Il roule vite, fait péter la surface des flaques. Loin devant, les phares tapent sur les troncs des premiers arbres. Un animal débouche d'un bord de la route. Je vois pas ce que c'est et ce qu'il est. Je pense à un cerf. Il court quelques mètres dans les phares, loin devant, puis saute de côté et entre dans la forêt sans ralentir. Se glisse entre les arbres, disparaît. Je passe une partie de la nuit à graver, avec la pointe d'un compas sur le bord de mon lit, la silhouette de l'animal aperçu. Quand je découvre mon corps pour la première fois, je ne le regarde pas, je le touche. Je ferme les yeux, respire. Je suis à genoux sur le tapis, les odeurs montent mêlées, les draps, la transpiration, la poussière âcre du tapis, et d'entre mes jambes une odeur inconnue, puissante. Sur mes paupières closes, la forêt, l'immensité des arbres, je voudrais crier, que ce cri soit un chant. La chambre est trop petite, et sur les murs encore, les images de quand j'étais petite. Je me rhabille, je cours d'une traite sans me retourner, j'entre dans la forêt, je m'allonge, je recommence. Le cri arrive, chargé d'enfance, de révolte, d'étonnement, de curiosité. L'immensité l'accueille sans cesser de vivre, la forêt reste debout, toutes les feuilles portées par les branches et par le vent. Je recommence. À la nuit, je sors de la forêt, je ne cours pas. De la lisière à la maison, il y a 1 ou 2 kilomètres. Je marche. Sur le visage un sourire, je viens de comprendre, de décider. Vivre entière. Je repense aux phrases incertaines de ma mère, à sa voix baissée pour me parler de sexe.
Il y a quelque chose qu'il faut que tu saches.
Aux histoires de mon père, répétées sans relâche.
Une fille est une fille.
Je prends acte des générations de silence, de l'impossibilité d'être, de l'imputation des corps, des désirs, des trajectoires, des existences. Je pousse la porte de la maison, je monte dans ma chambre, cache ma chemise sale pour pouvoir la remettre demain. Et maintenant, à 10 mètres sous la surface, dans l'immensité des fonds, je sais que je suis née ce jour-là, sur cette route de retour, sur ces 1 ou 2 kilomètres, née de moi-même. De mon plein gré, du désir d'exister, de lutter contre l'étroitesse. Je regarde la lourde cloche qui vient capter l'eau à sa source, la citerne à mi-chemin, montée sur de grandes poutres de fer, la pompe, la valve, l'embranchement, le grand tuyau qui part sur plusieurs mètres avant de prendre de l'angle. Là, à la base de la cloche, les initiales des femmes avant moi. Je prends le clou laissé par ma mère dans le poteau de bois il y a plusieurs années. M-A-C-H-A. Je grave M-A-C-H-A. Je regarde le compteur, la pression, les litres d'eau qui passent. Au-dessus du témoin de fonctionnement, il y a une petite vierge dans un renfoncement. Toutes ses couleurs sont passées. Elle veille. Monde de femmes ici. Elle paraît minuscule. Je veux faire vite, ne rien oublier. Je détourne les yeux. Vérifier l'état des joints. Avancer point par point, je l'ai apprise par cœur, la liste. Joint du socle, vérifier l'écrasement et les dépôts. Joint cloche conduite, vérifier le serrage, les boulons. Joint conduite citerne, vérifier le serrage. Joint citerne conduite, vérifier le serrage. C'est très important. Chaque geste compte. Un regard d'ensemble encore. Le silence. Le poids des années. Le joint doit toujours dépasser très légèrement, invisible aux yeux. C'est avec l'index que tu le sentiras, petit mouvement de haut en bas, petit cercle. Il dépasse, tu vas le sentir comme une lèvre. Je regarde autour, partout autour. Je voudrais être à chaque point de cette immensité, la connaître. Je suis seule. Je ne fixe pas le corps de ma mère, j'observe. Loin, peut-être. Je ne sais pas, un poisson est là, jaune à travers les couches d'eau, lumineux. Il passe. Je comprends que bientôt il aura disparu, je fais quelques pas, m'élance. J'ai le temps de l'apercevoir, je voudrais le toucher. La distance est trompeuse, mon bras retombe contre moi. Dans l'éclair, l'attente, la peur douce, j'ai pensé qu'il était cousu. Depuis la surface, on tire déjà la corde pour que je remonte. J'entends à nouveau une histoire racontée plusieurs fois, petite, dans les quelques dernières minutes avant de dormir, et une certitude. Je suis ma chat, 17 ans. Je ne vais pas rester ici, pas vivre ici. Le poisson, je ne voulais pas l'attraper. Mais le toucher, lire son relief, ses aspérités, comprendre sans couteau, sans avoir besoin d'ouvrir, d'observer à l'intérieur sa beauté intacte mais inerte. La corde tire, je ne suis pas encore libre du tout. On tient à moi, l'heure tourne, l'air va manquer. Le corps de ma mère, cette tache plus claire, éclipsait le reste, la totalité autour. C'était un repère, je le fixais. Je n'ai pas vu les poissons, le sol vert, l'immensité cachée derrière ce corps. Et maintenant, je voudrais être à chaque point de cette immensité et la connaître. La corde tire. Il y a le couloir, ma chambre, la grande pièce, la terrasse, la fenêtre de la cuisine, la fenêtre de la grande pièce, la route qui traverse la forêt, le champ, les images sur le mur de ma chambre, les livres trouvés sur l'étagère, Saint-Pétersbourg, le ciel, grand comme un poumon déplié, la voie lactée, les feux isolés, la fenêtre de ma chambre et toujours un corps pour masquer l'immensité. L'espace est court entre la pompe et la grande pierre taillée et saillante qui marque la limite. Il y a 6 pas. 6 grands pas. Je les marche dans un sens, puis reviens. C'est étroit. Je pense à ma mère. 6 pas peuvent rythmer une journée. On s'habitue, on oublie. Il y a le temps compté, l'odeur rassurante du linge, les trajets répétés tous les jours qui pourtant ne donnent jamais de route. Comme un arbre qui perd ses feuilles, on pleure. La corde tire. Je veux vivre. Tu disais avec ton histoire, je parle à mon père, directement, à travers le temps, à mon père, de toutes les années, depuis toutes les années assis dans son bureau vitré. Tu disais que la vie est un segment, dans l'espace et dans le temps.
Une rayure de zèbre.
Tu disais. On avait un grand livre d'images sur les animaux. Tu m'avais dit.
Ta vie, Macha, c'est une rayure de zèbre.
L'image est belle, mais je refuse. Et la beauté reste, même quand j'ai dit non. La vie, ça n'existe pas. Ce qui est vrai, c'est qu'on arrive, on est là et après. Voir ailleurs, vivre ailleurs, aimer ailleurs, manger et mourir ailleurs. Il y a la mer, les mers, les villes côtières, les villes loin des rives, une maison isolée où tu vas vivre, parfois un jour inoubliable, les oiseaux pleins de cris. Il y a les forêts, les fenêtres qui donnent sur les forêts. Et au milieu, entre tout ça, je suis là. Pas ailleurs. Là. Mon père est assis. À la table du petit déjeuner, d'abord dans son bureau vitré, à la table de la cantine, le soir à nouveau à table, et il lit, assis dans son lit. Mais finalement, tu te couches, papa, pour dormir. Et quand tu rêves, est-ce que tu rêves ? Moi je rêve et je note mes rêves. J'ai 28 carnets noirs avec des dates des rêves, des dessins. Et quand je rêve, je marche, je traverse des places, il y a des gens partout, ils mangent assis à de petites tables ou sur des marches ou debout ou à vélo. Ils parlent avec les mains, ils parlent avec des langues que je ne connais pas, ils dessinent sur les murs, écrivent. Je marche, je traverse. Sur le bord de la route, il y a un campement. Des femmes et des hommes cuisinent sur des vieilles gazinières. À la lumière du gaz, on voit l'intérieur de leur bouche. Et toi ? C'est quoi les faims qui t'occupent ? Les soifs qui te traversent ? Est-ce que tu as parfois l'impression d'avoir le corps tatoué ? Marqué par tes rêves ? Certains regards, certaines caresses ? Marqué par les mots qu'on te donne ou qu'on t'a donné ? L'ombre d'un autre ou d'un oiseau qui passe et reste trop longtemps. Quand je me lève le matin, que je vous rejoins pour le petit déjeuner, la tartine que je mange appartient encore à la nuit. Je la mange loin d'ici, pendant qu'à la même table, tu bois ton café en pensant déjà à ta journée de travail. La corde tire, je veux vivre. Regarder ce monde, le traverser, le comprendre sans couteau, sans avoir besoin de le disséquer, de l'ouvrir, de le piéger. Apprendre à reconnaître. Parler la langue des morceaux de pierre brisés au fond de l'eau, pour comprendre pourquoi ils se retournent parfois. Parler la langue des dorsales. Parler les fonds marins. La corde tire.
Dans la première ville qui m'arrête, je commence à étudier. Loin de la mer d'abord. La distance importe pour comprendre et pour imaginer. Puis plus proche, de plus en plus proche, la corde de tir. Et pour finir sur un bateau, un grand bateau avec des spécialistes pour chaque chose. La corde de tir. Pour chaque partie de la mer, la corde de tir. Et le soir, on mangera sur le pont ou dans une grande cabine et on se racontera ce qu'on a vu, entendu, ce qu'on a compris. La corde de tir. Deux coups. C'est un signal. Le matin, j'ouvrirai les yeux dans ma cabine. Le bruit de l'eau contre chaque point de la coque. Le plafond très bas, peut-être, le hublot. Et ma table de travail laissée la veille. La corde tire. Trois coups. Un poisson à nouveau. L'onde qui se propage au passage du poisson dit déjà le poisson. Je veux parler cette langue. Comprendre ce qui est, comment naissent et se transforment les mouvements. On me remonte. Elles doivent être toutes les deux arc-boutées sur la corde. Elles ont peut-être appelé du renfort. Quatre pantalons, six t-shirts, une jupe, deux pulls, les sandales, la paire de bottes, les chaussures montantes, la grande chemise de nuit, huit culottes, 12 paires de chaussettes, un bonnet, un manteau, un caouet. Après la forêt, continuer sur la grande route. Rouler une heure, au port. Une brosse à dents, le carnet. Embarquer sur une navette, laisser la mer, gagner le continent. Les deux livres sur le bureau. Prendre le train, dormir. Les photos, une carte, une serviette. Descendre le lendemain, dans la grande gare. La boîte en fer avec l'argent. Prendre la rue. Le carnet de rêve. Traverser la ville. Vous venez donc d'entendre Poème bleu, Nicole sous la surface de l'eau de Samaël Steiner. Pour les besoins de l'émission, bien évidemment, nous avons procédé à des coupes. En tout cas, vous pouvez retrouver ce texte aux éditions théâtrales. On rappelle aussi que c'est un texte qui a été découvert lors des Journées de Lyon des auteurs de théâtre et qu'il a été d'ailleurs lauréat du prix Jean-Jacques Lérand de ces journées-là en 2017. Ce livre, vous pouvez également les retrouver bien évidemment dans les bibliothèques de Lyon. On remercie d'ailleurs les bibliothèques pour le travail fabuleux qu'ils font. Et puis dans les remerciements, on remercie bien évidemment Jessie et Amandine pour ce moment-là. La semaine prochaine, à la même heure, 13h, 14h, Théâtre de la Gamelle sur Radio Canu. En attendant, on vous souhaite un bon week-end. Salut.
Merci Pauline.
Oui, merci.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'une ardeur snobble.
Le journal vivant. Revue politique.
Construction.
Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade. Hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.